Les entretiens de France Parkinson avec Monique. Bonjour Christelle Mandin.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Écoutez, avec plaisir en tout cas d'être invité sur cette interview avec l'association France Parkinson.
Oui, tout à fait. Je me présente, moi je suis Monique. Je suis à la fois adhérente de l'association France Parkinson et malade de la maladie de Parkinson, de la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, je suis là pour vous connaître, pour savoir, vous êtes sophrologue et pour comprendre ce que la sophrologie pourrait apporter aux malades et aux aidants de France Parkinson.
D'accord. Donc oui, effectivement, comme vous l'avez expliqué à l'instant, je suis donc sophrologue indépendant. Donc au niveau de mon parcours, pour me présenter très rapidement dans les grandes lignes, j'ai connu la sophrologie, j'ai commencé à pratiquer la sophrologie il y a une bonne dizaine d'années maintenant, à titre personnel. Au sein d'une association. J'ai pu découvrir cette méthode assez incroyable au travers d'un groupe. Je n'étais pas tout seul. Cette technique que j'ai pu apprendre il y a une dizaine d'années et pratiquer est arrivée à un moment de ma vie qui était un petit peu compliqué à titre personnel. Très rapidement, j'ai pu en mesurer les effets sur ma personne et ça m'a permis, en quelque sorte, entre guillemets, de revenir dans l'axe et puis de retrouver de la confiance en moi et puis de continuer mon parcours de vie de façon plus positive. Voilà, donc là, j'ai pu pratiquer donc, pendant 2 ans de la sophrologie à titre personnel. Et puis, je me suis un petit peu écarté de cette méthode parce que voilà, j'avais d'autres centres d'intérêt et j'en avais plus forcément le ressenti, comme ressenti d'en avoir besoin. Et puis, en 2021, j'ai fait le choix de revenir à cette méthode, à cet outil. Non plus en tant que, de pratiquant à titre personnel, mais en tant que professionnel. Et donc pour cela, eh bien, j'ai effectué donc une formation professionnelle, puisque c'est une formation qui est certifiée RNCP. Donc c'est une formation qui est enregistrée au registre national de la certification professionnelle. Donc ce qui m'a permis de faire le choix sur une école avec une formation sérieuse, et pour après, par la suite, eh bien, proposer aux gens que je suis, aux personnes que j'accompagne, un accompagnement de qualité. J'ai pu réaliser cette formation-là en 2021, et suite à ça, une fois la certification obtenue, eh bien, j'ai créé l'activité en tant que professionnel indépendant, en profession libérale, début janvier 2022, exactement. Et depuis, j'accompagne très régulièrement soit un public à titre individuel. Dans ce cas-là, on est sur de l'accompagnement vraiment personnalisé, sur mesure. Mais j'interviens également sur du collectif dans le cadre de différentes associations sur Périgueux et ses alentours.
Vous pouvez nous expliquer ce que peut vous apporter la sophrologie dans notre situation ?
Oui. Alors, pour expliquer ce qu'est la sophrologie, pour faire un petit peu d'histoire, il faut savoir que la sophrologie est une méthode qui a été élaborée par un neuropsychiatre dans les années 1960, qui était donc Alfonso Caicedo, et qui a souhaité mettre en place et proposer une méthode à ses malades qui soit différente des méthodes de soins utilisées à l'époque en psychiatrie, qui étaient très souvent des méthodes de soins assez violentes. Pour créer cette méthode, il s'est mis à faire le tour du monde pour aller chercher dans différentes cultures sur la planète des méthodes, des techniques de relaxation, des méthodes de mieux-être. Et donc, il a ramené ça en Europe et donc a pu ainsi élaborer sa méthode, sa technique, tout en s'inspirant, par exemple, du yoga. Il s'est également inspiré du zen japonais, de l'hypnose ericksonienne également, de la méditation. Donc en fait, je dirais que la sophrologie, c'est une sorte de patchwork un peu de toutes ces techniques et ces méthodes qui existent au travers de différentes cultures que l'on peut trouver aujourd'hui sur la planète et qui sont quand même maintenant assez connues. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la sophrologie, c'est avant tout une méthode psychocorporelle. C'est-à-dire qu'on va travailler et sur le relâchement physique, sur les muscles, sur les tensions musculaires. Donc on va chercher à les évacuer, ces tensions. Et on va travailler également sur de la projection mentale ou de la visualisation positive. Voilà, on va s'orienter vraiment sur de la pensée positive au travers de l'imaginaire qui se traduit au travers de différents exercices qui sont proposés au cours d'une séance. C'est ainsi que, pour une séance de sophrologie, on utilise différentes techniques, différents exercices qui sont dans un premier temps ce qu'on appelle des relaxations dynamiques. Donc là, on va travailler et sur le corps par le relâchement musculaire, mais également sur le mental. Et ces exercices-là, qui sont en règle générale au nombre de 3 ou 4 en début de séance, permettent un premier travail sur le corps et le mental pour arriver à un second type d'exercice que l'on appelle des sophronisations, exactement, et qui sont là des exercices de relaxation profonde. Et là, l'individu est alors amené dans un état de relaxation profonde, hein, il y a un état de conscience modifié. Et ce qui va permettre aussi de travailler sur des choses un petit peu plus profondes pour essayer d'aller modifier certains schémas, soit comportementaux ou des schémas, je dirais, neurologiques. Et on va ainsi installer, l'idée c'est d'installer des choses positives, c'est de faire émerger des sensations physiques, mentales, émotionnelles positives, pour que l'individu puisse prendre conscience qu'il a ces ressources-là en lui ou en elle, et qu'il est en capacité, au travers de différents petits exercices, de pouvoir les réutiliser dans son quotidien, et ainsi, je dirais, installer un mieux-être dans la vie de tous les jours.
Ce que vous m'expliquez là, ça me semble assez complexe. Est-ce que c'est possible de travailler dans un groupe avec ce que vous venez de nous proposer?
Oui, alors dans un accompagnement de groupe, alors tout le monde va être amené à faire les mêmes exercices, mais ce qui est intéressant d'observer, parce qu'en fin de séance, il y a toujours un petit moment d'échange où on fait un tour et chacun est libre d'exprimer ou pas comment il a vécu la séance au travers de ses ressentis physiques, mentaux, émotionnels. Sur un groupe, donc tout le monde va faire les mêmes exercices en même temps, mais ce qui est intéressant, c'est que chacun va vivre des choses différentes. Et ça, c'est très riche, je dirais, en termes d'observation et de ce que je peux en écouter à chaque fin de séance. Alors après, au niveau des groupes, je privilégie toujours des petits groupes, hein, avec un maximum de 6-7 personnes, parce que voilà, faut que les gens se sentent à l'aise au niveau du groupe. Et puis bon, voilà, c'est aussi une question de gestion du groupe, hein, parce que voilà, il faut quand même garder un œil sur tous les participants le temps des exercices. Donc je privilégie des petits groupes. Et donc sur une séance collective, eh bien, on va faire exactement ce que je vous ai expliqué auparavant, c'est-à-dire qu'on va entamer la séance par une série de relaxations dynamiques, qui sont des exercices de courte durée, 6-7 minutes chacun, et ensuite en seconde partie de séance, on va effectuer un exercice de relaxation profonde que l'on appelle une sophronisation, exactement. Et là, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que à la fin d'une séance complète qui va durer à peu près une heure, voire des fois un petit peu plus, je dirais l'état général que l'on peut observer et d'après ce qu'expriment donc les participants, la plupart des personnes ont pu vivre un moment vraiment de relâchement profond, aussi bien physiquement que mentalement.
Moi, j'aurais une petite question à poser après cette présentation de la sophrologie. Est-ce que vous avez, ou est-ce que vous rencontrez régulièrement des personnes qui sont imperméables, justement, à ces techniques de relaxation?
Alors, ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui sont effectivement... profondément pensent que non, de toute façon, sur moi, ça ne marchera pas. Hein, ça arrive aussi qu'il y ait des personnes qui soient méfiantes, hein, également par rapport à la méthode, à l'outil, parce que là, c'est pareil, je pense qu'il y a une méconnaissance du grand public encore aujourd'hui sur la sophrologie, malgré que ça soit un outil quand même qui soit rentré aujourd'hui dans le monde médical, dans le monde du sport, dans le monde de l'entreprise, parce que voilà, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Parce que voilà, on a quand même quelques décennies de recul maintenant, donc il y a quand même des choses très concrètes, hein, et des résultats vraiment positifs, hein, apportés par la sophrologie. Après, il y a toujours effectivement des personnes qui peuvent dire ben non, j'y crois pas, sur moi de toute façon ça ne fonctionnera pas. Sur toutes les personnes que j'ai accompagnées, même parmi les peut-être les plus sceptiques ou méfiantes, une séance est construite d'une telle façon que, alors même si au départ la personne est sur ses gardes, entre guillemets, la séance est faite de façon à que de toute façon, très rapidement, la personne va quand même aller malgré tout vers un état de relâchement, ce qu'on appelle d'hypovigilance, c'est-à-dire que voilà, elle sera beaucoup moins sur le qui-vive, sur la défensive, et progressivement va se laisser glisser vers quand même du relâchement musculaire ou mental.
Et dans votre pratique, ça c'est courant de voir justement des personnes réfractaires ou méfiantes glisser vers la conversion. J'utilise le mot conversion à dessein.
Ah oui. Alors, quand on est sur l'accompagnement individuel, je ne rencontre pas ce type de personnes un peu réfractaires. Pourquoi ? Parce que déjà, l'individu aura fait la démarche de venir me rencontrer pour essayer de régler une problématique ou pour, effectivement, que ce soit du stress, travailler sur des pensées ou des cogitations mentales négatives ou travailler sur de la confiance en soi. Voilà, il y aura déjà au départ, dans la démarche de la personne, la volonté de venir. Hein, donc là, on est dans un état d'esprit, je dirais, de travail serein. Voilà, et réceptif, voilà, tout à fait. Les personnes éventuellement réticentes que j'ai pu rencontrer, ça aura été sur du groupe. Où là, oui, une personne, pour une première fois, va venir, mais bon, sans être forcément convaincue à l'avance par les résultats que cela peut apporter. Et là, effectivement, bon, la personne est là parce qu'elle s'est fait entraîner par une amie ou un ami, pour faire plaisir, a pu dire, oui, bon, ben, je vais venir voir comment ça se passe, mais bon, moi, sur moi, tu sais, de toute façon, ça, j'attends pas grand-chose. Voilà, c'est dans le cadre plutôt du collectif où je peux être amené à rencontrer des individus un peu plus sceptiques.
Quelle est votre expérience concernant les groupes de malades ou d'aidants ?
Alors, concernant les aidants, l'intérêt de la pratique de la sophrologie, ça va être quoi ? Je dirais qu'avant tout, ça va être l'idée de passer un moment pour soi. Donc ça, déjà, je pense que c'est très important de sortir du quotidien et de s'accorder une heure pour penser à soi. Avant même d'avoir parlé de l'outil ou de la pratique. Hein, c'est déjà s'accorder ce moment-là personnel. Bon, pour ça, enfin, je pense que c'est très important d'avoir déjà cette démarche-là. Alors, peut-être pas tous les jours, forcément, parce que d'un point de vue organisation, ça paraît compliqué, mais de temps à autre, effectivement, s'accorder ce laps de repos.
C'est une forme de répit.
Voilà, c'est une forme de répit, de repos. Et ensuite, ce qui est intéressant, ce que va pouvoir trouver un aidant au travers de la sophrologie, ça va être la possibilité d'acquérir des techniques, des outils qui vont lui permettre, après, en totale autonomie, Parce que bon, les exercices et les techniques sont très simples à apprendre. Hein. Voilà, il suffit un peu de répétition et on a vite les exercices en tête. Et l'idée, c'est que la personne soit très rapidement autonome et qu'elle puisse, chez elle, s'accorder aussi tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais assez régulièrement, pendant 10 minutes, un quart d'heure, un peu de temps pour refaire des exercices. Parce que voilà, la clé pour qu'il y ait du résultat, c'est qu'il faut, comme un sportif, de l'entraînement, de la répétition. Il faut réapprendre, voilà, faut apprendre à son corps, à son mental, des nouvelles habitudes. Et à force de répétition, effectivement, c'est là qu'on va pouvoir voir les premiers résultats apparaître vraiment. Alors, c'est pas qu'au cours d'une séance, il n'y a pas de résultat à la fin de la séance. En règle générale, la plupart des gens, sortis d'une séance, se sentent décontractés, relâchés. Enfin, voilà, il y a quand même, à la fin d'une séance, des résultats tout de suite observables. Mais les effets, forcément, dans le temps, vont rapidement s'estomper. Donc, il faut régulièrement refaire, s'entraîner, faire des exercices de sophrologie. Et comme ça, effectivement, un aidant va pouvoir apprendre comment évacuer le stress, comment évacuer les tensions musculaires, parce que quand il y a du stress, forcément, au niveau musculaire, ça crée différentes tensions, des douleurs aussi, hein, ça peut déclencher des douleurs au niveau du corps. Et donc, le fait de travailler là-dessus va permettre à l'aidant, effectivement, de pouvoir évacuer mentalement, physiquement, beaucoup de tensions. Et puis je dirais que pour un aidant aussi, ce qui est proposé par la sophrologie, il va y avoir aussi des séances pour apprendre à prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à son quotidien, à sa situation. On peut aussi travailler là-dessus. On peut travailler aussi sur comment évacuer tout ce qui est pensée négative, cogitation, etc. Parce qu'on sait très bien que le mental, lorsqu'on commence à s'enfoncer dans des pensées quotidiennes, négatives, que ça commence à tourner en boucle en permanence, eh bien ça peut très bien dégénérer sur des maladies type dépression. Voilà. Donc ça aussi, pour un aidant, la sophrologie peut aider à apprendre comment évacuer toutes les pensées, toutes les cogitations, qui peuvent au quotidien lui polluer l'existence.
Et concernant les malades ?
Alors concernant les malades, alors ce qui est intéressant au travers de la sophrologie, là tout pareil, on va pouvoir travailler sur du relâchement musculaire, les tensions musculaires. Donc ça c'est, et puis travailler sur tout l'aspect, je dirais, locomoteur. Hein, on va travailler sur différentes parties du corps, les bras. Les jambes, etc., on travaille vraiment sur le schéma corporel total, hein, en termes de relâchement. Ensuite, ce qui est intéressant, notamment sur les exercices de relaxation profonde, qui, comme je le rappelle, sont ce qu'on appelle des sophronisations, une fois que le malade est arrivé dans un état de conscience modifiée, alors on n'est pas dans de l'hypnose, hein, même si effectivement le chemin qui mène à la relaxation, on appelle ça une induction, est également utilisée en hypnose. En sophrologie, l'individu reste conscient tout le temps de l'exercice. Hein, voilà, on travaille sur la conscience. En hypnose, on va travailler plus sur le subconscient. Et donc, une fois que le malade est arrivé à cet état de relaxation profonde, à ce moment-là, le cerveau change de fréquence, hein, parce que notre cerveau, il faut bien comprendre que notre cerveau, c'est un peu comme un poste radio, il reçoit des ondes, il émet des ondes. Là, en ce moment, nous sommes en train de nous parler, on est en hypervigilance, notre cerveau fonctionne avec une fréquence bêta. Quand on est en état de relaxation profonde, du moins en sophrologie, on passe sur une fréquence alpha, c'est-à-dire que le cerveau va fonctionner un peu plus au ralenti. D'accord. Et quand, ce que j'ai pu observer, ce que j'observe régulièrement lorsque j'accompagne un malade atteint de la maladie de Parkinson, c'est qu'arrivé à ce stade de l'exercice, et ça c'est observable très facilement, eh bien, on peut noter que les tremblements, par exemple, qui sont une manifestation assez typiques de la maladie, vont, chez la plupart des personnes, s'estomper, voire s'arrêter totalement le temps que dure l'exercice. Voilà. Et puis, bien sûr, à la fin de l'exercice, bon, on revient un petit peu à la surface. Hein, je ramène les gens un peu à la surface. Et là, effectivement, bon, mais les tremblements vont, hélas, se remettre en route de façon plus ou moins importante en fonction des individus. Mais toujours est-il, c'est que pendant ces 10 minutes, un quart d'heure d'exercice, il y aura eu un répit, un calme ressenti par le malade. Et ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment, chez le malade, appréciable.
Est-ce qu'il y a des méthodes simples, ou des exercices plutôt, de relaxation primaire qui peuvent être enseignés ou faits exécuter aux malades par les aidants, par leurs aidants, qui ont eux-mêmes été formés à ça?
Oui, alors sans forcément vouloir faire des aidants des sophrologues, hein, parce que forcément, quoique il pourrait y avoir des aidants qui puissent s'intéresser à ce type de formation.
Je parle uniquement de ce qui est défini comme la relaxation primaire, dynamique.
Ouais, de toute façon, oui, voilà, comme ce sont des exercices très simples à apprendre et à mettre en pratique, je dirais que n'importe quel aidant a la capacité de pouvoir le faire en s'y étant entraîné quand même un petit peu. Voilà, il faut quand même s'entraîner plusieurs fois sur un même exercice, hein, pour bien l'assimiler, bien le comprendre. Je pense que voilà, un aidant est en capacité tout à fait de pouvoir refaire certains exercices qui sont très accessibles. Et ça, ça peut être intéressant, parce que effectivement, parce que ça veut dire que une fois que ce genre d'exercice peut être mis en pratique au niveau de l'aidant et du malade, c'est quelque chose qui peut se faire régulièrement. Et c'est là qu'il y a effectivement un intérêt, qu'il y aurait un intérêt, parce que, comme je vous le disais juste avant, plus il y a de la répétition régulière, quotidienne, et plus il y aura effectivement la possibilité d'avoir des résultats. Parce que la finalité, bon, évidemment, la sophrologie ne va pas guérir cette maladie, hein, on est d'accord, mais elle peut permettre, je pense, de ralentir la dégradation liée à cette maladie. Parce qu'effectivement, on va travailler et sur le corps régulièrement, et on va aussi travailler sur le mental. Donc oui, c'est une bonne idée de former les aidants à quelques exercices pour qu'ils puissent après, ouais, effectivement, les retranscrire et vraiment apporter comme ça une aide optimum pour le malade.
Où pratiquez-vous, Christelle ?
Alors, où je pratique aujourd'hui ? Alors, je n'ai plus de cabinet sur Périgueux. Aujourd'hui, je fais uniquement des interventions à domicile sur Périgueux et ses alentours, hein, son agglomération. Et ensuite, lorsque j'interviens dans différentes associations, ben, en règle générale, il y a à disposition un local ou une salle qui peut être mise à disposition par une commune, entre autres.
Donc vous travaillez pour des associations ?
Aussi, oui. Pas que Parkinson, oui.
D'accord.
Voilà. Voilà, puisque de toute façon, la sophrologie s'adresse à tout type de public, hein, quel que soit l'âge. Hein. Et je dirais que la sophrologie a son intérêt partout où il y a de l'humain, parce que je pense que tout le monde peut avoir besoin, à un moment donné de sa vie, de ce type de méthode l'aider, le rebooster, lui redonner confiance et de l'énergie pour... à continuer sa vie malgré des embûches et voir les choses de façon positive.
Oui, tout à fait. Et même sans tout ça, la sophrologie apporte tout simplement ce que vous avez dit tout à l'heure, s'accorder à soi-même du temps, à des moments de sa vie où on ne pense pas en prendre du temps. Moi, j'ai pratiqué beaucoup la sophrologie.
D'accord.
Sans avoir spécialement besoin, mais c'est en pratiquant la sophrologie qu'on se rend compte à quel point ça fait du bien. À quel point on ne sait pas s'occuper de soi-même.
Oui, tout à fait.
À quel point on est effectivement sur des schémas répétitifs, et puis on ne pense pas à soi-même.
Oui, effectivement, aujourd'hui, le type de société dans laquelle on vit fait que voilà, c'est la course folle hein, au quotidien. Et effectivement, on a une forte tendance à complètement s'oublier. Hein. Quand on dit métro, boulot, dodo, c'est tout à fait vrai. Et c'est important de pouvoir se dégager un petit peu de temps, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure chaque jour, pour se poser. Se vider la tête, travailler sur la respiration, parce qu'effectivement la sophrologie utilise la respiration comme outil, parce que la respiration, qui est une fonction vitale, qui marche en automatique, hein, on ne pense pas qu'il faut respirer, et heureusement, parce qu'on deviendrait fou, mais il faut savoir quand même que cette fonction vitale est une des rares fonctions sur laquelle on peut prendre le contrôle. Et là, quand on a conscience de ça, et quand on le fait, quand effectivement on se retrouve dans une situation de stress intense, eh bien, en quelques minutes, on a la capacité, en prenant le contrôle de cette respiration, pareil, au travers de différents exercices respiratoires qui sont utilisés en sophrologie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le rythme cardiaque va redescendre, le cœur qui commençait à s'emballer parce que voilà, il y avait une poussée de stress, va battre beaucoup moins vite, la tension va redescendre aussi, et on va avoir cette sensation très rapide de retrouver du calme parce qu'on aura effectivement pris le contrôle de sa respiration.
Alors justement, si vous permettez, les sportifs ont-ils besoin de sophrologie, savoir des gens qui sont entraînés justement par vocation à contrôler leur respiration?
Alors, effectivement, aujourd'hui, la sophrologie est de plus en plus utilisée dans le monde du sport à plusieurs niveaux. Tout d'abord, mais voilà, travailler aussi sur le relâchement musculaire, hein, puisque on travaille sur le corps, mais elle est également surtout utilisée dans la préparation mentale. C'est-à-dire que, au travers de certains exercices, on va par exemple faire vivre une victoire à un sportif comme s'il y était en vrai, alors que ça, on va le faire que par l'imaginaire.
Là, on passe à la sophronisation.
Oui, exactement. Voilà, tout à fait. Et en préparant donc le sportif de cette façon-là, eh bien, le jour de la compétition, il aura déjà vécu, imaginé et surtout, ce qui est important, ressenti dans son corps cette sensation de joie que peut apporter une victoire, par exemple. Et tout ça, ça va réémerger le jour de la compétition et l'aider.
Libérer. Oui.
Voilà, et l'aider déjà être plus serein, hein, parce que bon, un sportif, quand même, connaît des niveaux de stress quand même assez importants. Ça l'aidera justement à canaliser ce stress et surtout de se mettre en confiance pour aller vers une victoire. Tout ça parce qu'il l'aura préparé mentalement en amont.
Quelle est l'influence de l'âge dans la réceptivité aux techniques de la sophrologie? Quelle est l'influence du sexe? Quels sont les rapports de la sophrologie au rêve? Est-ce que la sophrologie est susceptible d'améliorer le sommeil?
Oula, ça fait beaucoup de questions. Alors, concernant le sommeil, oui, bien sûr, la sophrologie permet d'améliorer la qualité du sommeil, hein, parce qu'on peut très bien faire effectivement certains exercices le soir, notamment, avant de se coucher. Donc ça va effectivement permettre de plonger plus facilement dans un sommeil réparateur. Donc ça, c'est le premier point. Par rapport à l'influence sur l'âge...
Est-ce qu'il y a des enfants qui font de la sophrologie?
Oui, on peut commencer très tôt à faire de la sophrologie dès 5-6 ans.
Et ça se fait dans les écoles.
Voilà, exactement. Et ça permet de canaliser, je dirais, l'état de nervosité de certains enfants. Oui, c'est un outil qui peut être intéressant à pratiquer à l'école pour gérer, apaiser un petit peu... l'énergie débordante de certains, et puis...
Les hyperactifs.
Par exemple.
Pas seulement les hyperactifs, hein, parce aussi, que ouais. Les enfants sont très réceptifs à la sophrologie pour comprendre le fonctionnement de leur corps. Et ça se fait beaucoup dans les écoles maintenant, et j'en suis très contente, parce que ça permet effectivement d'unifier une classe.
Aussi, oui.
Dans cet exercice.
D'accord.
C'est ma petite fille qui en fait.
Oui, oui, d'accord. Ouais. Non, puis ça leur permet aussi, effectivement, de effectivement, prendre conscience de leur corps.
Absolument.
Mais aussi de travailler sur de la confiance en soi.
Oui.
Hein, parce que souvent, les enfants sont... Il y a beaucoup d'enfants timides, notamment, des adolescents timides. Et ça permet aussi, comme ça, d'aider à sortir un peu plus de sa zone de confort et puis de se sentir mieux aussi en société.
Alors là, j'arrive bien à le concevoir pour des enfants qui sont dans ces situations-là, ou pour de jeunes adultes qui sont dans des situations de stress, qui ont différentes raisons et qui peuvent être extrêmement profondes, mais pour des vieillards qui sont revenus de tout, est-ce que ça peut encore avoir un intérêt ?
Ben bien sûr. Déjà, alors sur le corps, ça permet de maintenir le tonus musculaire. Donc ça c'est important.
Hein. Et justement, alors là j'avais une question annexe. Est-ce que la pratique de la sophrologie nécessite un matériel particulier ?
Non, non, non.
Pas de tapis, pas de.
Alors moi je ne fais pas travailler allongé pour la simple raison que sur certains exercices, notamment les exercices de relaxation profonde, il y a de fortes chances que les gens partent dans le sommeil.
Ah bon.
Eh oui, il y a des gens qui vont s'endormir. Donc, j'évite de faire allonger. On travaille soit debout, soit assis sur une chaise. Voilà, donc il y a toujours un état quand même de vigilance. Et on évite comme ça de faire des micro-siestes. Voilà, donc c'est préférable. Et comme ça, ça permet vraiment de rester bien conscient dans la séance. Donc oui, voilà, pour une personne senior, je dirais que oui, tout l'intérêt, voilà, c'est de maintenir le tonus musculaire. Et puis, mentalement, il y a beaucoup de seniors qui, ont du mal à accepter le vieillissement, tout simplement. Hein, c'est pas quelque chose de très réjouissant à vivre et à accepter. Donc il y a beaucoup de seniors qui vont faire de la dépression. Parce que voilà, ils n'acceptent pas d'arriver à ce stade de vie. Donc ça peut être très compliqué. Ou des personnes seniors qui se retrouvent seules, veufs. Pourquoi ? Voilà. Donc quand on est seul, forcément, on est plus enclin à sombrer dans des choses plutôt négatives. Donc même mentalement, pour tout ce qui est cognitif, la sophrologie va permettre de travailler sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau, l'entretenir, travailler sur les sens. On travaille beaucoup aussi sur les cinq sens, également sur l'équilibre. Enfin voilà, c'est... Non, au contraire, je pense que pour les personnes seniors, ça a tout son intérêt, oui.
Et alors l'influence, la comparaison que vous avez pu être amené à faire de l'effet des techniques de la sophrologie suivant le sexe des personnes, est-ce que ça...
Alors, merci pour la question. je vais vous répondre. Ce que j'ai observé jusqu'à présent, c'est que la plupart des personnes que j'accompagne sont des femmes. Et voilà, je regrette énormément qu'il n'y ait pas plus d'hommes, que ce soit à titre individuel, dans une démarche personnelle, ou en tant que participant à un groupe. Alors, bon, je pense avoir l'explication. Je pense très sincèrement que la population féminine est beaucoup plus consciente et plus sensibilisée à une prise en charge de sa santé. Voilà, je pense que les femmes font plus attention à leur santé, à leur bien-être, que la population masculine.
Un peu plus longtemps, statistiquement.
Eh bien, peut-être. Bien. Voilà, tandis que voilà, la population masculine, dans sa toute-puissance, puisque voilà, on est... Beaucoup d'hommes se sentent indestructibles, et puis voilà, tout ce qui touche au bien-être, c'est mal vu, quoi, c'est mal accepté, on va pas dire que c'est...
Il y a des choses là-dessus, il y a des études, il y a des écrits, est-ce que l'influence de la charge mentale pour les femmes les conduit à recourir plus souvent que les hommes à la sophrologie ?
Alors, qu'il y ait une charge mentale pour les femmes, oui, ça, c'est clair et net, hein, surtout aujourd'hui, avec en plus un travail professionnel à assurer, plus le travail souvent à la maison en rentrant le soir. Bien que bon, les choses changent aussi, heureusement évoluent, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là. Après, non, je pense que ce qui fait qu'il y a plus de femmes effectivement tournées vers tout ce qui touche au bien-être, je pense que c'est dû certainement déjà à la base à plus de sensibilité. Voilà, plus sensibilité à des choses qui touchent au soi profond, vous voyez. Non, les hommes sont beaucoup plus. Après, je pense que c'est une question d'éducation puis de culture aussi. Hein.
Bien sûr, parce que vous parliez tout à l'heure de la sophrologie et dans le sport. Ça rentre maintenant la sophrologie. C'est vrai que les femmes sont beaucoup plus curieuses que les hommes. C'est pour ça qu'elles participent à plein de choses. Et que les hommes restent toujours dans les mêmes schémas, c'est-à-dire le foot, le rugby, les sports masculins, dits masculins. Mais effectivement, les femmes sont plus curieuses parce qu'elles, dans tous les corps dans toutes les techniques, le yoga, il n'y a que des femmes. Enfin, pas que, mais il y a pratiquement principalement des femmes, en sophrologie aussi.
Non, je pense que voilà, il y a une prise de conscience beaucoup plus large au niveau des femmes concernant le bien-être que pour les hommes.
Oui, de la curiosité aussi.
Oui, de la curiosité,
Est-ce qu'on pratique la sophrologie dans des métiers qui sont générateurs de stress, comme l'armée, par exemple, en tout cas les unités les plus exposées, ou les pompiers?
Moi, je n'ai jamais eu l'occasion jusqu'à présent d'intervenir sur ce type de public. Que ce soit au niveau de l'armée ou de la gendarmerie, qu'il existe de la préparation mentale qui est faite sur... peut-être certaines unités plus spécialisées où effectivement là il faut un mental d'acier pour pouvoir effectivement gérer certaines situations de crise ou situations compliquées. Là il y a effectivement de la préparation mentale qui est faite. Alors par quel type de professionnel? Est-ce que c'est des coachs? Là après je ne sais pas. Là j'ai pas de connaissances sur ces domaines-là. Mais la sophrologie serait tout à fait appropriée.
Intéressant.
Ah oui, la sophrologie serait tout à fait appropriée pour ce type de métier. Hein. Tout à fait, oui.
J'aurais quand même une dernière question qui me vient, là, que j'avais oubliée. Est-ce que les techniques de la sophrologie, elles vous paraissent s'appliquer d'une manière égale à toutes les maladies neurodégénératives?
Alors... en sophrologie,
c'est une question compliquée.
Oui, c'est compliqué. Alors après, de toute façon, en sophrologie, les exercices qui existent aujourd'hui sont de toute façon utilisés, que ce soit pour aider un malade, pour aider une personne qui veut se débarrasser de son stress ou mieux gérer ses émotions, se donner de la confiance. Après, si vous voulez, chaque exercice, on va pouvoir l'adapter en fait par rapport au public sur lequel on intervient. Bon, là, au micro, c'est un petit peu compliqué de vous expliquer, de rentrer vraiment, au fond des choses, au cœur du réacteur, hein, d'un exercice, mais en fonction de ce qu'on souhaite atteindre comme objectif, un même exercice, on va pouvoir le tourner de différentes façons. Voilà. C'est-à-dire que peut-être qu'on va être amené sur une relaxation dynamique, par exemple, faire les mêmes mouvements, quel que soit, je veux dire, le public en face, mais au travers des mouvements que l'on fait faire, on porte mentalement toujours une intention, une pensée. C'est-à-dire qu'on fait travailler et le corps et le mental en même temps.
Non, moi, je pensais en particulier à la grande différence qu'il peut y avoir dans les symptômes à des états avancés de la maladie. Par exemple, la dyskinésie, les mouvements incontrôlés sont plus courants dans la maladie de Parkinson que dans la sphère de l'Alzheimer. Donc, est-ce que là, ça peut avoir une application particulière?
On peut appliquer, effectivement, les exercices. Après, ça va être au sophrologue de vraiment bien jauger les choses dès le départ et juger vraiment des possibilités et des limites de la personne qui est en face.
Je peux vous servir je vais vous donner un exemple, le mien. Par rapport à la maladie, j'ai développé une agoraphobie, la peur des grands espaces. Mmh. Donc, il me crée de l'anxiété, donc il m'empêche de bouger. Et j'ai utilisé, effectivement, la sophrologie, les écrans d'exercice de sophrologie qui sont la visualisation.
Ouais, est-ce qu'on peut, effectivement, travailler sur des phobies ?
Tout à fait. Ouais. Et je me mets en position de visualisation. Je vais dans un... J'ai un but, par exemple, aller dans un grand magasin. Et je suis anxieuse de l'espace qu'il y a dans, sur le parking, tout simplement. Eh bien, avant de partir, je travaille sur la visualisation où tout va bien. Je conduis, tout va bien. J'arrive sur le parking, je gare ma voiture à l'endroit que j'ai envie de la garer. Je marche bien, tout va très bien. Et effectivement, je le fais plusieurs fois, cet exercice de visualisation, en respirant, faisant une respiration ventrale. Et lorsque je me retrouve dans la même situation, mon cerveau a déjà vécu ça.
C'est ça.
Et donc, je m'appuie sur ça, sur ce qu'il a vécu.
J'anticipe la situation.
Voilà, j'anticipe même pas, je reprends ce que j'ai programmé.
Oui, c'est ça. Oui, c'est un très bon exemple.
Voilà, effectivement, j'arrive et je revis effectivement la visualisation que j'ai faite.
C'est ça, c'est-à-dire que vous êtes tourné le film avant.
Oui, c'est ça.
Et le film se termine bien.
Il se termine bien, voilà. Et puis j'utilise le film quand j'arrive. Ce n'est pas toujours facile, mais ça avance et de plus en plus.
Et donc, ce qui se passe dans ce moment-là de visualisation positive, où effectivement vous projetez des images, où vous imaginez comment ça va se passer à l'avance, en même temps que vous projetez des images dans votre tête, votre corps, lui... en même temps va ce qu'on appelle somatiser des ressentis physiques, voire émotionnels. Donc là, positif, parce que le film se passe bien, tout se déroule bien. Ce qui fait qu'une fois que c'est enregistré, ancré dans votre corps, parce que ça va s'ancrer au plus profond de soi. En sophrologie, on est persuadé que ça s'ancre même au niveau cellulaire, l'information. Voilà, c'est-à-dire que vous transmettez une information au corps... qui lui-même l'enregistre. Et effectivement, lorsque la situation réelle se présente, eh bien votre corps, effectivement, il a déjà vécu et il sait que tout va bien se passer.
Tout à fait.
Et tout se passe bien.
Et j'utilise aussi l'autosuggestion en disant « Tout va bien, je suis en sécurité. »
C'est ça. Alors ça, c'est d'après le pharmacien Émile Coué.
Tout à fait.
Donc, Essedo s'est largement inspiré.
Tout à fait.
Et c'est vrai que cette méthode Coué... On s'en moque un petit peu aujourd'hui.
On s'en moque de moins en moins.
On a tendance un peu à en rigoler, mais c'est une technique qui, à son époque, a permis quand même... parce que bon, j'ai lu des ouvrages sur ce pharmacien. Il a pu, comme ça, soigner quelques milliers de personnes parce qu'il y avait une maladie psychosomatique. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord soigner le mental, effectivement en travaillant sur du positif, de la répétition. Moi, j'appelle ça de la marteau-thérapie. C'est-à-dire qu'à force que le cerveau enregistre toujours la même information, eh bien il finit par... il l'imprime, il crée des nouveaux circuits neuronaux en termes d'information, des nouveaux schémas. Et c'est comme ça qu'on arrive à transformer des choses, des mauvaises habitudes ou des fausses croyances qui font que ça peut nous déséquilibrer à certains moments de la vie et réagir de façon néfaste au fait, donc oui, voilà, c'est intéressant comme ce que vous venez de dire comme témoignage. C'est exactement ça, mais ça nécessite du travail,
bien sûr. Mais en même temps,
parce que, comme je dis toujours, la sophrologie, c'est pas de la magie. On est d'accord, c'est pas, il y a rien de surnaturel ou d'ésotérique comme certaines personnes pourraient le croire, parce que voilà, quand on connaît pas l'outil, on aurait tendance à dire que voilà.
Ça débute largement par une prise de conscience de soi.
C'est ça. Voilà, parce que la finalité d'un travail sophrologique sur soi-même, c'est d'aller vers de la pleine conscience. Conscience de soi, conscience de qui l'on est, de ses ressources, de ses capacités à utiliser ses ressources au quotidien, et puis conscience aussi de son environnement, de tout ce qui nous entoure. Voilà, c'est ce qu'on appelle, ce que Caicedo appelait la conscience sophrologique. C'est un travail, on peut mettre une vie entière, hein, et on n'est même pas sûr d'atteindre un tel niveau. Mais voilà, c'est de tendre vers ça pour tout simplement arriver à vivre plus sereinement au quotidien, vivre avec plus dans la joie, tout simplement.
Vous pouvez, s'il vous plaît, Christelle, rappeler les dates du travail de ce fondateur de la sophrologie.
Alors, Caicedo, c'est 1960. Voilà, il a mis sa méthode dans les années 1960 au point, mais c'est une méthode qu'il a fait également évoluer sur jusqu'à la fin de sa vie, hein, tout simplement. Hein. Et c'est un outil qui, à mon avis, aujourd'hui, est encore en capacité très largement d'évoluer. Surtout, moi je m'intéresse aussi à tout ce qui se fait en termes de recherche au niveau des neurosciences. Donc c'est vrai que ces dernières années, il y a des choses, des découvertes assez extraordinaires. On est loin d'avoir tout compris et découvert encore comment fonctionne exactement le cerveau. Et voilà, je pense que la sophrologie, on peut l'utiliser justement à comment faire.
On enregistre au fur et à mesure ces avancées scientifiques. Donc c'est pour cette raison qu'on vous invitera à nouveau pour que vous puissiez nous parler justement de ces problèmes.
Parce que, et là je suis en train de penser à quelque chose qui est important justement dans le cadre des malades atteints d'Alzheimer, c'est par rapport à cette problématique d'hormone qui est la dopamine, hein, on est d'accord. En sophrologie, le fait de faire émerger chez la personne des ressentis positifs au travers d'images, on crée aussi des modifications biochimiques dans le corps. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire ce qu'on appelle actionner le circuit de la récompense qui, lui, actionne la pompe à dopamine, oui. Par exemple.
Comme les exercices physiques.
Voilà. Donc ça a aussi son utilité dans ce sens-là.
Merci, Christelle, de nous avoir tout expliqué.
Eh bien, merci à vous de m'avoir accueilli et puis de m'avoir permis de faire découvrir au travers de ce micro les bienfaits de la sophrologie. Voilà.
À la prochaine.
Eh bien, écoutez, avec plaisir.
Merci beaucoup, Christelle.
Merci à vous.
Merci.
Les entretiens de France Parkinson avec Monique.